J'espère que vous connaissez ce sauveur merveilleux, que vous savez combien en effet il est doux, toutes les choses merveilleuses qu'il a accomplies, qu'il continue d'accomplir dans notre vie. Alors, je vous invite à prendre votre Bible et pendant quelques minutes ce matin, nous allons examiner de nouveau des versets dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, nous allons d'ailleurs revenir sur un verset que nous avons vu la semaine dernière. Et en fait, c'est surtout deux versets qui nous intéresseront ce matin. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 13 et 14. Permettez-moi de les lire, après quoi nous prierons pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 13 et 14. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces instants que nous passons dans ta parole. Nous avons besoin de ta sagesse pour comprendre ce que tu as pour nous et nous avons besoin de ta grâce pour le mettre en pratique, que tu puisses nous parler à travers ta parole puissante et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans notre cœur. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, ce verset 13 de notre texte, nous connaissons bien, très souvent, nous nous encourageons avec ce verset lorsque nous faisons face, oui, à des tentations, lorsque nous faisons face à des choses difficiles dans notre vie, avec cette assurance, ben Dieu préparera un moyen de supporter et nous allons examiner un peu plus en détail ce verset 13, mais je me pose la question, est-ce que vous avez été aussi surpris, peut-être même choqué, de voir ce verset 14 suivre tout de suite le verset 13? Parce que il parle de cette merveilleuse vérité au verset 13, que Dieu, lui, il est fidèle et il pourvoit ce moyen de sortir, de supporter les épreuves, les tentations. Et là, verset 14, c'est pourquoi Paul dit, j'ai écrit ce qui précède dans le but. Il dit, voici le but. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, où est le lien entre la tentation du verset 13 et cette idée de l'idolâtrie au verset 14? Peut-être vous dites-vous, il n'y a pas vraiment de lien. La tentation, l'idolâtrie sont des choses quand même assez différentes. Et de toutes les façons, nous n'avons jamais de problème avec l'idolâtrie de nos jours. Donc voilà, il faut lire le verset, mais après il faut passer à autre chose. Et je me demande si parfois, si on ne fait pas attention, même si nous n'avons pas explicitement ces réflexions, même si nous ne le disons pas ouvertement, peut-être on commence à avoir un peu cet esprit que c'était des problèmes, notamment l'idolâtrie ici, un problème auquel les Corinthiens faisaient face, c'était quelque chose avec lequel eux ils avaient un problème, et que peut-être d'autres dans le monde, notamment on va dire en Orient, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, les gens qui se prosternent devant des statues, les animistes qui adorent un peu de la nature, le bois et tout, eux ils ont un problème avec l'idolâtrie, mais nous gens civilisés de l'Occident, en France, en Europe quand même, on n'a pas de statues. Si je devais venir chez vous, je crois pas que je trouverai un petit coin avec des bougies, de l'encens, des statues. Et on se dit, on n'a pas de problème avec l'idolâtrie, ça c'est pour les autres, eux ils doivent faire attention, mais pour nous ça va, on passe à autre chose. Et puisque Paul lit directement cette idée de tentation avec aussi l'idolâtrie, Je suis en droit de me poser la question, Dieu veut-il aujourd'hui, 21e siècle, à Vernon, que nous prenions le temps d'examiner notre vie pour nous assurer que nous ne soyons pas dans l'idolâtrie? Je suis convaincu que oui, et si je devais la poser, si je devais poser la question individuellement à chacun, bah, avez-vous un problème avec l'idolâtrie? Êtes-vous idolâtre? Je suis convaincu à 100% que ici, personne ne reconnaîtrait être idolâtre. Si je devais demander à lever la main, ce que je ne ferais pas, mais qui ici est idolâtre? Je serais extrêmement étonné de voir une main se lever. Et pourtant, il est possible qu'un chrétien tombe dans l'idolâtrie. Souvenons-nous auxquelles, les personnes auxquelles Paul écrit ici. Il n'écrit pas à n'importe qui. Il écrit à des chrétiens. Et au verset 14, il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, une expression qu'il va réserver aux chrétiens. Il va parler des gens de dehors, il va parler des autres, il va employer d'autres expressions pour parler de tout le monde. Mais cette expression « bien-aimé », avec les autres auteurs des livres du Nouveau Testament, vont réserver cette expression pour les chrétiens. Et comme nous avons vu précédemment dans cet épître, Paul, il est entièrement convaincu du salut des chrétiens de Corinthe. Bien sûr, ils avaient des problèmes. Ils étaient dans le péché. Ils permettaient le péché au sein de l'Église. Il y avait des choses qui devaient être réglées. Ils s'étaient éloignés de Dieu, en quelque sorte. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient perdu le salut. Ce n'était pas pour autant qu'ils étaient moins chrétiens que d'autres. Non, c'était des chrétiens. Et pourtant, Paul est obligé de leur écrire ce petit verset en disant, « Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Et nous pouvons comprendre par cela que les chrétiens de Corinthe avaient un problème avec des idoles. Et d'ailleurs, dans les versets qui suivent, puisque cela était devenu un problème, et parce que les Corinthiens se posaient toutes sortes de questions, notamment en ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles, Paul sera obligé de donner quelques précisions là-dessus, et Dieu voulant, la semaine prochaine, ou dans le prochain message, sur ce passage, on va examiner en détail, mais on laissera cela pour un autre message. Ce qui est clair, par contre, à travers ce verset, c'est que les chrétiens de Corinthe avaient un problème. Et si Dieu a préservé ce verset dans sa parole pour nous aujourd'hui, ce n'est pas simplement au niveau historique, pour nous montrer que les chrétiens de Corinthe avaient un problème, mais c'est pour nous aussi, pour nous pousser à examiner notre propre vie. Parce que comme j'ai dit, si on devait nous demander ouvertement « Avez-vous un problème avec l'idolâtrie ?» Je suis convaincu, chacun ici dirait « Non !» Et nous voudrions que ce soit le cas. Je suis convaincu aussi que personne ici ne souhaite devenir idolâtre. Et pourtant, il est possible, si nous ne faisons pas attention, s'il y a un peu de laisser-aller dans notre vie, si nous devenons tellement préoccupés avec d'autres choses que Dieu et sa parole, il est possible que nous tombions rapidement dans l'idolâtrie. Et comme j'ai dit, Paul lie étroitement cette idée d'idolâtrie à la tentation du verset 13. Alors, revenons sur le verset 13, ce verset si bien connu pour nous. Mais revenons là-dessus pour poser notre base, notre fondement de cet enseignement que Paul donne. Alors, déjà au début du verset 13, Paul annonce quelque chose que parfois nous avons du mal à croire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Avez-vous jamais eu l'impression de faire face à une tentation que personne n'a jamais rencontrée? Et vous vous dites, mais personne au monde n'a jamais été confronté à une telle tentation. Avez-vous jamais eu ce sentiment? Vous êtes devant une tentation, vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, quelqu'un vous dit quelque chose, et vous dites, là, c'est pas possible. Personne dans l'histoire du monde n'a jamais dû faire face à cette tentation. Et dans un sens, puisque nous avons fait des progrès dans beaucoup de domaines, notamment technologique, informatique, scientifique et tout. Il est vrai, nous sommes confrontés à des choses aujourd'hui que les gens, il y a 50 ans, il y a 100 ans, n'étaient pas confrontés. Nous pouvons voir les choses en direct aujourd'hui qui sont impossibles de voir, qui étaient impossibles il y a même 30 ou 40 ans. Alors, j'ai partagé ce matin avec quelques-uns que hier, je suis devenu pour la deuxième fois tonton. Donc, ma belle-sœur a accouché d'une petite fille. N'hésitez pas, si vous voulez voir des photos, je vous montrerai. Donc, j'en ai sur mon téléphone, vous pouvez les voir. Mais il est extraordinaire que hier, on va dire quelques heures après l'accouchement, mon frère avait la possibilité d'envoyer des photos à la famille. Donc la famille qui n'était pas présent sur place, mais un peu partout dans le monde, il a pu envoyer des photos. C'est quand même hallucinant. Et nous faisons des progrès qui permettent certaines choses que les gens, il y a, comme j'ai dit, 50 voire 100 ans, n'étaient pas confrontés. Et pourtant, nous ne devons pas tomber dans ce piège de croire que nous sommes le premier à faire face à telle ou telle tentation. Les tentations viennent de tous les côtés, arrivent de toutes sortes de manières, à travers toutes sortes de personnes, soit consciemment ou même inconsciemment. Et Paul ici reconnaît le principe que, dans un sens, les tentations peuvent être regroupées et que nous ne pouvons pas dire, je suis unique dans ce sens, je fais face à ceci et personne d'autre ne sait par quoi je passe, personne d'autre n'a jamais été confronté à ceci. Mais aussi, lorsque Paul dit « aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine », il dit que dans ces tentations, et il va expliquer ce qu'il dit, qu'il y a la possibilité de surmonter. Il y a la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et parfois, nous faisons face à des tentations, et qu'est-ce que nous entendons? Vous l'avez certainement entendu, peut-être l'avez-vous dit. Je n'en peux plus. C'est plus fort que moi. Combien de fois l'avez-vous entendu? Peut-être vous l'avez dit. C'est plus fort que moi, telle ou telle tentation. Parfois, on parle de cela dans les choses qui ne sont pas très graves. On prend un morceau de chocolat, on prend un morceau de fromage. Allez, on dit, je le prends, c'est plus fort que moi. Bon, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour l'estomac, pour le poids, mais voilà, c'est pas si grave que cela. Mais parfois, dans d'autres domaines, notamment spirituels, nous faisons face à des tentations et peut-être nous disons, c'est plus fort que moi. Là, c'est pas possible, cette tentation, elle est tellement forte, elle est tellement longue, qu'elle est plus forte que moi, je n'en peux plus, je ne peux pas résister, je ne peux pas surmonter, je ne peux pas supporter. Et à ce moment-là, nous oublions la vérité de ce verset. Parce que soit Dieu dit la vérité, soit il ne le dit pas. Il dit, par le biais de l'apôtre Paul, Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, si nous faisons face à une tentation quelconque dans notre vie, c'est un manque de foi de croire que nous ne pouvons pas supporter. Et c'est porter atteinte aux promesses de Dieu de croire cela. Et il est vrai, dans la réalité de la chose, des tentations peuvent être difficiles, peuvent être dures, peuvent avoir des conséquences dramatiques et requièrent une puissance, là je dirais surnaturelle, et on va voir ça dans ce verset, une puissance surnaturelle pour supporter et pour surmonter. Mais de dire que c'est impossible porte atteinte à ce que Dieu dit dans sa parole. Lorsque nous revenons à ce verset, Paul, tout de suite, il veut régler dans l'esprit et dans la compréhension des chrétiens de Corinthe et pour nous aujourd'hui, cette conception de Dieu, Dieu qui est fidèle. Et j'espère que ceci vous encourage autant que pour moi. Dieu est fidèle. Avez-vous déjà pris le temps de bien méditer sur cette idée de la fidélité de Dieu? Nous savons que nous ne sommes pas fidèles, n'est-ce pas? Parfois, on manque à nos devoirs. Parfois, on n'est pas capable de faire des choses que nous voudrions faire ou que nous avons dit que nous allions faire et nous ne sommes pas fidèles. Et nous savons que les autres ne sont pas fidèles non plus. Vous comptez sur quelqu'un, quelqu'un vous dit « Oui, je serai là, je vais pouvoir faire telle ou telle chose, je vais pouvoir aider. Allez, comptez sur moi, je serai là. » Et là, la personne ne peut pas, pour diverses raisons. Et on est déçu. Et nous savons que nous ne sommes pas fidèles, que les autres ne le sont pas, mais Dieu est fidèle. Depuis littéralement des milliers et des milliers d'années, Dieu, fidèlement, tous les matins, fait lever le soleil. Est-ce que cela vous surprend? Ce matin, le soleil s'est levé. Il est là. On le voit dans le ciel. Ce n'est pas le hasard. C'est pas simplement la nature qui fait que, avec son cycle rythmique de la nature, que le soleil se lève. Non. C'est Dieu, par sa main puissante, qui fait lever le soleil. Et depuis littéralement des milliers d'années, il le fait, sans jamais faillir. Et ce Dieu fidèle qui fait lever le soleil, qui le fait coucher, qui fait apparaître la lune, qui nous donne le souffle de vie jusqu'à aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui va nous soutenir lors de la tentation. Et nous pouvons avoir cette connaissance dans notre esprit, dans notre tête. Mais lorsque la tentation arrive, lorsque nous sommes face à quelque chose qui va nous pousser à désobéir, à faire un mauvais choix, qui va nous pousser à nous éloigner de Dieu, faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, à ce moment-là, parfois, nous oublions ce verset. Et nous croyons que peut-être ce sera la fois là où Dieu va faillir. Que Dieu a pu soutenir jusqu'à présent, mais cette fois-ci, c'est de trop. Et nous oublions que si Dieu, pendant littéralement des milliers et des milliers d'années, n'a jamais failli dans quoi que ce soit, c'est pas aujourd'hui qu'il va commencer avec nous. Non, Dieu qui est fidèle. Soyons émerveillés par la fidélité de Dieu, surtout sa fidélité envers des créatures qui ne le méritent pas. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes de recevoir cette fidélité qu'il le fait, non, c'est sa grâce qui le fait. En Jésus-Christ, nous sommes rendus, dans ce sens, dignes devant lui, et gloire à Dieu pour cela, mais cela ne vient pas de nous. Non, c'est Dieu qui le fait, et Dieu est fidèle, malgré notre infidélité, malgré nos mauvais choix, malgré les situations dans lesquelles nous nous mettons, Dieu reste fidèle. Cette pensée-là devrait nous encourager à chaque instant, chaque jour. Vous souvenez-vous de cela? Je vous avoue franchement que parfois il m'arrive d'oublier cela. Et j'ai besoin de revenir à des versets comme celui-ci. Et louer Dieu pour sa fidélité. Et sur la base de cette fidélité, Paul va expliquer ce que Dieu va faire. Il n'est pas simplement fidèle de manière générale, ça il est, mais aussi spécifiquement, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Nous n'avons pas le droit de dire « ceci est trop dur ». Ici, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Ce sont des expressions que le chrétien ne devrait jamais prononcer. Parce que le Seigneur est avec lui. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce qui fait que n'importe quelle situation où nous sommes tentés, il y a la possibilité de faire un bon choix. Il y a la possibilité de réussir. Le croyons-nous? Le croyons-nous? Et est-ce que nous agissons en conséquence? C'est une promesse de la part de Dieu. Mais combien de fois nous arrive-t-il de douter de cela, au moment précis de la tentation, on se dit, non, là, peut-être ça pourrait marcher pour toutes les autres fois, mais pour cette fois-ci, non, 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 là, c'est trop. Dieu était tellement occupé à s'occuper de tous les autres que moi, il m'a un peu oublié, il a permis, ceci lui a un peu échappé. Non, nous savons que ce n'est pas vrai, et pourtant, je suis convaincu que ce genre de pensées peuvent nous arriver dans l'esprit. Et à ce moment-là, il faut se recadrer sur la vérité de la parole. Dieu ne permettra pas du tout. Et la force de ce que Paul dit, si on regarde dans le grec, c'est vraiment pas du tout. Il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et si il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de notre force, il fera quelque chose en contrepartie, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et ceci est tellement beau. Dieu n'est pas un Dieu réactif, dans ce sens que quelque chose arrive et il réagit comme s'il ne savait pas que la chose arriverait. Ça, c'est nous, n'est-ce pas? Parfois, les choses arrivent, la voiture tombe en panne, un appareil à la maison tombe en panne, quelque chose au niveau de la santé, on découvre qu'on a une certaine maladie, on tombe malade, il y a des imprévus tout le temps dans la vie. Des choses qui nous surprennent et nous sommes obligés de réagir parce que nous ne nous attendions pas. Dieu n'est jamais comme cela. Dieu n'est pas un Dieu réactif qui a besoin de dire « Ah mince, je savais pas que ça arrivait, j'avais pas prévu que... » Alors maintenant, plan B, il faut que j'essaie de résoudre telle ou telle situation. Non, Dieu prépare déjà le moyen de sortir de n'importe quelle tentation. Il prépare, il pense à l'avance au moyen de nous aider à sortir de n'importe quelle tentation. Et de voir que Dieu prépare pour chacun d'entre nous individuellement, face à n'importe quelle tentation, la possibilité de supporter et même de surmonter. Quel encouragement! Quelle grâce de sa part! Et à la fin de ce verset, nous voyons le but pour nous permettre de supporter. C'est littéralement ce que Paul écrit. Pour permettre, il parle de capacité, pour nous donner la capacité de supporter la tentation. C'est ce que Dieu fait. Il n'est pas obligé, mais par amour, parce que nous sommes ses enfants, si nous l'avons reçu par la foi, il le fait pour nous, individuellement. Et nous pouvons mettre notre nom dans ce verset. Ben, il le fait pour moi. Il est fidèle envers moi. Il ne permettra pas qu'une tentation arrive au-delà de mes forces. Il prépare pour moi spécifiquement un moyen d'échapper pour que je puisse supporter telle ou telle tentation qui est devant moi. Alors, nous savons que la réalité de notre vie, c'est que nous cédons à la tentation, n'est-ce pas? Pouvez-vous penser à la dernière fois que vous avez cédé à la tentation? Soit dans un petit domaine, soit dans quelque chose de plus grave. Je suis convaincu que chacun d'entre nous peut penser à un moment où nous avons cédé à la tentation. Et à qui la faute? Parfois nous avons ce réflexe de nous en prendre un peu à Dieu. Dieu, tu n'as pas fait assez pour m'aider dans telle ou telle situation. C'est pas du tout le genre d'attitude que nous devons avoir, et pourtant, si nous sommes honnêtes, parfois nous avons ce genre de pensée. Non, si nous cédons à la tentation, c'est pas parce que Dieu a failli de son côté, que sa force manquait, que c'était trop complexe, que ça lui a échappé quelque part. Non, c'est notre faute. C'est parce que nous ne sommes pas tournés vers Dieu. Nous ne sommes pas appuyés sur sa grâce. Nous n'avons pas cherché ce moyen d'en sortir parce que Dieu a promis de le prévoir. Et il a préparé. Lorsque nous cédons à la tentation, et je choisis bien mon mot, le mot que j'emploie, non pas si, parce que il nous arrivera de céder. Mais lorsque nous cédons à la tentation, ne nous en prenons pas à Dieu. Jacques dit, bah, c'est pas Dieu qui tente. Non, 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 non. Dieu ne tente pas. Et lorsque nous sommes tentés, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Non, au contraire, Dieu permet la tentation, oui, mais aussi il prévoit et prépare à chaque fois le moyen d'en sortir pour nous permettre, pour nous rendre capables de la sortir, de la supporter, cette tentation. Et justement, Paul veut poser ce fondement de la tentation. Et comme j'ai dit, nous revenons à ce verset 14, il lie cela étroitement avec l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, nous voyons ce mot, et il est vrai, tellement souvent nous pensons à ces statues, morceaux de bois, peut-être des pièces, ou bien toutes sortes de choses, de l'encens, des idoles, oui, de faux dieux. Nous pensons à toutes ces choses. Et parce que nous ne sommes pas impliqués dans ces choses, nous pouvons peut-être nous donner bonne conscience en disant, c'est pas grave, j'ai pas un problème avec ça, je ne suis pas tenté par ces idoles-là. Et peut-être c'est le cas. Mais ce ne sont pas les seules idoles dans ce monde. L'homme, devenant plus sophistiqué pour faire le mal, s'est donné toutes sortes d'autres idoles dans sa vie. Et même si l'église de Corinthe a dû faire face directement aux idoles, aux statues qui étaient là dans la ville, souvenons-nous, la ville de Corinthe, ville païenne, où les gens ne suivaient pas Dieu, avaient une multitude de faux dieux, et les chrétiens qui étaient présents devaient faire face à tous ces faux dieux, à ce culte idolâtre. Mais en même temps, aujourd'hui, de nos jours, 21e siècle, nous faisons aussi face à l'idolâtrie autour de nous. Le culte de la personnalité, n'est-ce pas? Les gens qui veulent pratiquement qu'on les adore. C'est, si je me souviens bien, au Turkménistan, au Moyen-Orient, bah là, le chef de l'État, tenez-vous bien, peut-être vous l'avez entendu, s'est fait ériger une statue, une grande statue, à sa ressemblance, et veut que tout le monde l'adore. Culte de la personnalité, ben, vous voulez un exemple? En voilà un. Et on se dit, mais c'est complètement ridicule. Qui ferait cela? Ben, apparemment cet homme. Et, bon, on fait plusieurs liens avec ce que nous voyons dans le livre de Daniel et tout. Mais, beaucoup, sans se faire ériger une statue que l'on voit, eh ben, se mettent en avant. Et de manière figurée, veulent que toute l'attention soit sur eux. Et ça peut être une tentation de se mettre en avant, de se mettre à la première place. Parce que l'idolâtrie, enfin, c'est quoi? Bah, c'est mettre quelque chose autre devant Dieu. Ça peut être une statue, comme ce chef d'État au Turkménistan, mais ça peut être soi-même. Égocentrisme, on se centre sur soi-même. Et on se met à la première place. Et ses besoins, ses désirs, ses préoccupations, ses aspirations deviennent le point central et tout tourne autour de cela. Et peut-être dans votre esprit, vous pouvez penser à des gens comme ça. Vous dites, ah oui, je connais quelqu'un comme ça, qui est tellement pris de lui-même. Et après, si on se pose la question, mais moi, suis-je comme cela? Suis-je tellement préoccupé par moi-même et ce qui me concerne que j'enlève à Dieu cette première place dans ma vie? Est-ce que je place mes aspirations, mes désirs, mes attentes, ce que moi je veux avant ce que Dieu veut? Si je le fais, je suis devenu une idole pour moi-même. Et Dieu n'a plus la première place dans ma vie. Bien sûr, je ne me prosternerai pas devant une statue. Mais avec le temps que j'utilise, avec les choix que je fais, je peux montrer que je pense à moi. Alors que Dieu veut être à la première place à chaque instant de notre vie. Et tout comme nous pouvons devenir une idole pour nous-mêmes, savez-vous que la famille peut devenir une idole? On se dit, mais la famille, elle est donnée par Dieu. La famille, il faut s'en occuper. La famille, il faut la chérir quand même. C'est quelque chose de beau, formidable, voulu de Dieu. Et tout cela est vrai. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans les évangiles. Celui qui vient après moi et ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa famille. Celui qui préfère sa famille, Jésus va parler en termes de aimer et de haïr. Il parle très fort. Mais il veut montrer que celui qui préfère sa famille à lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même, n'est pas digne de suivre le Christ. Et bien sûr, la famille est importante. Je ne veux pas du tout la minimiser. Elle est voulue de Dieu. Elle est mise en place par Dieu. Et oui, il faut s'en occuper, mais non pas aux dépens de la première place qu'on accorde à Dieu. Qui passe en premier, Dieu ou la famille? S'il faut faire un choix dans ses activités, dans le temps qu'on va accorder, qui est-ce qu'on va préférer? Dieu ou sa famille? Ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents même. Encore une fois, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de minimiser la famille. Non, il faut lui accorder sa place légitime. Mais sa place légitime n'est pas avant Dieu. Non. Dieu doit occuper la première place dans notre vie. Et lorsqu'il a cette première place, nous aurons toute liberté de nous occuper de toutes ces autres responsabilités légitimes et voulues de Dieu. Mais si Dieu n'a pas sa première place, si nous ne pensons pas d'abord à Dieu, nous sommes dans l'erreur. Nous commençons à tomber dans cette idolâtrie. Comme nous le savons, l'argent peut devenir une idole. Les gens qui travaillent uniquement pour l'argent. Bon, il faut travailler, il faut être récompensé pour son travail. Principe biblique, rien à dire là-dessus. Et pourtant, lorsque nous permettons le travail ou l'argent à prendre la place de Dieu dans notre vie, à ce moment-là, nous devenons idolâtres. Et nous pourrions multiplier des exemples. Prenez n'importe quelle chose, n'importe quelle personne, et posez-vous la question, est-ce que cette chose de cette personne, je la place devant Dieu? Et si la réponse est oui, vous serez obligé de reconnaître que vous êtes tombé dans l'idolâtrie. Et ça peut être dur à entendre, et un examen approfondi de sa propre vie peut révéler des choses assez surprenantes, assez choquantes. Et c'est pour cela que Paul, il écrit à ces chrétiens de Corinthe pour leur dire, fuyez l'idolâtrie. C'est un impératif. C'est quelque chose qu'il faut laisser de côté entièrement. Il faut aller dans l'autre direction. Ces chrétiens de Corinthe se laissaient influencer quelque part. Et malgré leur bonne volonté de résister et de faire face à cela, certains étaient tombés. Et Paul dit, fuyez. Fuyez. Il ne s'agit pas de rester indifférent. Il ne s'agit pas de laisser les choses telles qu'elles sont. Non, il s'agit de passer à l'action. Déjà, identifier ces domaines où peut-être nous sommes tombés dans l'idolâtrie, aussi dur que ce soit de reconnaître, mais de le reconnaître, et après, de faire des changements, de fuir. Peut-être physiquement, peut-être il y a des endroits où on ne devrait plus aller, mais peut-être mentalement, ne plus réfléchir sur certaines choses. Peut-être changer ses habitudes. Et Paul ici dit, mes bien-aimés, ces chrétiens que j'aime dans le Seigneur, que je veux voir avancer, occupez-vous de ce domaine. Oui, vous faites face à la tentation et ne croyez pas que vous devez céder à chaque fois, que la chose est trop dure. Non, non, non. Vous avez la possibilité par l'Esprit de Dieu de surmonter. Et lorsque cette tentation spécifiquement concernant l'idolâtrie, c'est-à-dire de placer quelque chose avant Dieu, viendra, quand cette tentation spécifiquement viendra, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous aidera à résister. Dieu nous permettra de réfléchir bibliquement. Dieu nous aidera à prendre cette décision de garder Dieu à la première place. Et dans notre vie, d'examiner Dieu. En ce moment, est-il à la première place? Peut-être il est. Gloire à Dieu. Amen. Continuez. Peut-être en ce moment, Dieu ne l'est pas. Et ils font demander pardon à Dieu. Et lui redonner cette première place. Et puis, chaque jour, prendre cette décision de garder Dieu à la première place dans notre vie. Que toutes nos actions, toutes nos attitudes soient imprégnées de cette pensée de Dieu. Qu'il soit présent dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans toutes nos attitudes. Et lorsque nous ferons face à cette tentation, ben, d'agir différemment, d'avoir d'autres priorités, de mettre quelque chose d'autre à la place de Dieu, nous pouvons avoir cette certitude qu'il est possible, avec l'aide de Dieu, ben, de faire le bon choix, de garder Dieu à cette première place, de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Maintenant, la question, c'est, est-ce que je suis prêt à m'examiner? Est-ce que je suis prêt à reconnaître que, oui, par moment, Dieu n'a pas la première place dans ma vie? Nous avons du mal à admettre cela, mais c'est une première étape. Et puis, est-ce que je suis prêt, par la grâce de Dieu, de faire des changements, de passer à l'action, de fuir cette idolâtrie? Suis-je prêt à faire cela? C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Il n'a jamais dit que ce serait simple. Non, mais il a promis son aide. Il dit, c'est possible. Je vous rends capable. Je vous donne ma puissance. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé de puissance surnaturelle. Cela ne vient pas de nous. C'est Dieu qui le fait. Mais nous devons être prêts à lui permettre de faire cela dans notre vie. Alors, à cette question, êtes-vous idolâtre? Comment pouvez-vous répondre? Comment puis-je répondre? Si nous le sommes, allons-nous le rester? Ou, par la grâce de Dieu, allons-nous lui permettre de faire ce changement dans notre vie? À chacun de prendre la décision de fuir l'idolâtrie, de nous attacher davantage et toujours à Dieu et à sa parole. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous venons devant toi et oui, nous reconnaissons notre incapacité de faire ces choses nous-mêmes. Nous sommes insuffisants pour ces choses, Seigneur, et nous demandons ton aide par ton Saint-Esprit de nous éclairer, de nous révéler là où nous avons besoin de changer. Et Seigneur, par ta puissance, que tu nous changes pour toi, que tu continues ce processus de sanctification que tu as commencé en nous, cette bonne œuvre, que tu as commencé au moment de notre salut et que tu vas parfaire jusqu'à ton retour. Et Seigneur, que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen.